dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la rentrée et des enjeux de la rentrée pour les marchés globaux. On en parle avec Jean-Pierre Petit, le président des Cahiers Verts de l'économie, à mes côtés en plateau. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir Grégoire.
Parlons de l'Europe et même spécifiquement de la France. Michel Barnier et les marchés. Alors c'est un peu la gourmandise de l'observateur quotidien des marchés. J'ai regardé si Michel Barnier, la nomination, avait eu une influence sur le spread. Je crois que non. Le spread s'est pas détérioré, il s'est pas amélioré non plus. J'ai l'impression que ce qu'on appelait à un moment les bonds vigilantes, les investisseurs obligataires attentifs, vigilants, restent en position de vigilance vis-à-vis de la France.
Oui, objectivement, c'est le moins mauvais des premiers ministres qu'on nous avait proposé au cours des dernières semaines. Hein. J'exclus même l'hypothèse NFP. Mais voilà, donc c'est. Mais pour les marchés, d'abord. Ça avait été un petit peu pricé, l'idée d'un centriste, centre-gauche, centre-droit. Et deuxième chose, on ne connaît pas encore le contenu de ce qu'il va annoncer, etc. Troisième chose, il y a la stabilité. Parce que là, maintenant, on est quand même dans une hypothèse sous la Ve République où on n'est pas du tout assuré qu'il tienne plus qu'un mois, deux mois, trois mois, six mois, etc. Encore que le test du projet de loi de finances va être fondamental.
Parce bien, après, bien sûr,
sur le calendrier...
Oui, s'il survit au budget...
Oui.
Après, c'est plus tranquille, a priori, quand même, peut-être.
Je sais pas ce qu'il aura comme
ambition. Plus tranquille.
Je sais pas ce qu'il aura comme ambition. Il faudra qu'il fasse quelque chose pour le RN, ça c'est sûr. Sur l'immigration, la sécurité, ça c'est sûr. Mais disons que globalement, c'est pas mal. Alors c'est pas mal parce que bon, le gars est quand même habitué des négociations. Non, il connaît bien la Commission européenne. C'est quand même.
C'est pas inutile.
C'est pas inutile par les temps qui courent. Ouais. Il a 73 ans, alors c'est devenu un avantage maintenant parce que bon, évidemment, il n'y a pas grand chose à perdre a priori. Hein.
Ah on est passé de si t'as 40 ans, c'est fini à le retour des
73,
des 73 quoi.
T'as pu le remarquer depuis le 21 juillet, les 80. C'est râpé par
contre. C'est ça, voilà, c'est ce que je dis. C'est,
Il y a l'innovation. 73 jusqu'à 80.
Oui, oui.
Après, parce que c'est un sacré 50. Coup de barre qui a été donné le 21 juillet au niveau mondial, je pense. On en parlera tout à l'heure si tu veux. Donc 73 ans, il n'a rien à perdre. Son patron aussi, Macron, se représente pas. Donc il a une certaine latitude. Alors c'est vrai que au primaire de 2021, il était quand même plutôt sur une ligne réformiste, justement des dépenses publiques, immigration, sécurité. Donc c'est pour ça qu'il a pour l'instant une neutralité bienveillante entre guillemets du RN. C'est ça qui va être fondamental à mon avis parce qu'il aura rien à gratter à gauche. Il va simplement devoir donner quelques gages à la gauche macroniste. Mmh. Voilà, sans doute sur quelques aspects fiscaux, peut-être sur les super profits, sur le Dutreil. On parle de tout un tas de trucs. Et puis pour le RN, il va falloir qu'il fasse quelque chose sur l'immigration et la sécurité. Et le RN est un petit peu en position difficile parce que il sait très bien que s'il le renverse par une motion de censure, s'il vote une motion de censure, après on aura du mal à quand même à ne pas avoir la gauche.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Oui, oui.
Donc,
oui, oui.
Donc il y a un petit sujet. Quand même
il y a un revers quand même à la censure.
Le RN n'est pas aussi libre.
Confortable.
Confortable.
Ouais, j'entends.
Voilà, donc c'est pas. Globalement, par rapport à l'angoisse qui avait monté, évidemment, en juin-juillet, notamment après le résultat du deuxième tour des élections législatives, où on pouvait craindre qu'une créature de LFI arrive comme chef de gouvernement, là, c'est plus véritablement le cas.
Voilà. Combien de temps on se donne, combien de temps les marchés, l'Europe aussi, les partenaires européens, comment ça peut se négocier tout ça? Bon, il y a la séquence budgétaire, est-ce qu'on va devoir consolider en 4 ans, 7 ans, etc. J'ai l'impression que c'est des droits quand même qui se gagnent. C'est pas automatique.
Non, c'est pas automatique.
C'est-à-dire que, la France est dans une situation où les partenaires n'ont plus envie de faire de chèques en blanc et de cadeaux à la France. Donc il faut gagner à chaque fois le droit de pouvoir consolider en 7 ans,
oui,
etc.
Absolument.
Etc.
Mais néanmoins, ils sont réalistes. Ils savent que cette année,
J'entends bien.
On est à 5,5 encore. Donc,
oui, on sera pas à 4. Oui,
voilà.
D'accord.
Puis la croissance nominale est passée de 6,5 à 3,5. Voilà. Le taux d'intérêt apparent a un tout petit peu monté, mais enfin quand même un petit peu monté. Ce qui fait que l'écart entre la croissance nominale et le taux d'intérêt s'est considérablement réduit. Et avec un solde primaire à peu près à -3,2, -3,3, la dette publique en pourcentage du PIB ne peut pas se stabiliser. Donc il va falloir trouver, alors pour arriver à 3% en 2027, il faudrait 110 milliards ex post, c'est-à-dire que ex ante, il faudrait beaucoup plus. Donc, parce que ex post, évidemment, parce que si tu annonces un projet de loi de finances dans lequel tu réduis le déficit public de 2 points de PIB, en fait, tu ne réalises qu'à peine un point.
Ouais, c'est ça.
Tu as généré une pression récessive qui réduit les recettes fiscales et ce qui fait que ex post, tu as un déficit public plus important que ce que tu prétendais. Donc, au total, ça va être. C'est mission impossible, hein, de toute façon, pour les 3%, mais même, ça va être très, très compliqué, comme rarement ça a été compliqué. C'est normal, hein, puisqu'on a. Une dette publique à 111, 112, hein, ça on ne l'a pas eu depuis très longtemps, depuis 1945, et qu'on a des taux d'intérêt qui ne sont pas beaucoup remontés. Je parle du taux d'intérêt apparent.
Hein. Ah oui, oui,
et lui
bien
qui
sûr.
Compte,
oui.
Pas beaucoup remontés. Oui. Bon, ils vont se stabiliser au bout d'un moment, mais voilà, on n'est plus à des. On a plus les espoirs d'avoir des taux de refinancement proches de 0,5, en moyenne, à 0,5, 1.
Il ne faut pas compter sur un retour de ces taux de financement demain ou après-demain.
Alors là, c'est là où j'ai fait une divergence déjà avec pas mal de mes confrères, les gens qui ont tendance à considérer que le taux
reste... Le retour à un état antérieur n'est pas impossible.
J'exclus rien. Hein. J'exclus rien. Non, non, mais franchement, parce que nous, on avait prévu les taux d'intérêt négatifs en 2012 et les gens nous traitaient de cinglés parce qu'il y avait des taux d'intérêt négatifs, les gens disaient que ce n'était pas normal. Moi, je disais si, dans la situation où on est, c'est la situation dans laquelle on est qui n'est peut-être pas normale, mais on n'a pas le choix. D'abord, ce qui compte, c'est le taux réel. Donc, si les anticipations d'inflation passent à sous les zéros, ce qui était... Enfin, on était presque après la grande crise de la dette souveraine européenne, on était en difficulté. C'est pas pour rien que le Japon réussit à garder des taux réels à moins 0,5 par exemple aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas oublier que le pays qui a le plus de dettes privées et publiques à refinancer, c'est le Japon. Et c'est la, à mon avis l'erreur un petit peu de la BCE actuellement, avec des taux réels à 1%, avec une croissance potentielle probablement 0,7, 0,8, pas plus, en zone euro. On est en difficulté. Quand tu vois l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne a fait 3 années
zéro. Incroyable.
Elle est au même niveau
que 2019.
Que le début 2019.
Ah oui, c'est ça.
C'est hallucinant. C'est rare quand même dans l'histoire.
Ah oui, ça c'est sûr.
C'est rare dans l'histoire. Donc, on est aussi en grosse difficulté. Puis l'avantage qu'on a pour le taux réel d'équilibre, si tu veux, c'est qu'on a une croissance potentielle plus faible et on a quand même un équilibre épargne-investissement plus favorable au niveau de l'épargne. Même si, on l'envoie aux États-Unis ou ailleurs. Mais ça, c'est encore un autre problème. Je ne sais pas ce que dit le rapport Mario de
Alors,
Mario
c'était ma question. Parce que sur l'Allemagne, c'est l'anecdote que je citais la semaine dernière, mais coup sur coup, en 24 heures, il y a quand même le PDG de Volkswagen, alors qui va fermer une ou deux usines, mais qui dit nous ne sommes plus compétitifs. Enfin, je veux dire, c'est quand même des grands patrons allemands. Et derrière ça, 24, même pas 24 heures après, le patron de Deutsche Bank qui dit les Allemands ne travaillent pas assez. Il va falloir retravailler à nouveau.
Il ne s'est pas prononcé sur les Français. Parce que...
Mais voilà, mais ça m'intéressait que ce soit justement deux patrons allemands qui, face à leur audience, face à leur public allemand, portent des messages aussi forts. Draghi, alors j'ai pas lu les 400 pages et les 170 mesures, mais enfin, pour moi, c'est du Draghi dans le texte. Évidemment, investissement, il n'y a que ça qui sortira l'Europe de l'ornière et qui remettra l'Europe dans le match et lui évitera de sortir de l'histoire. Et puis derrière investissement, ça veut dire investissement en commun. Enfin bon... J'ai pas lu les 400 pages. Je suis sûr que les 170 mesures sont extraordinaires, très pertinentes, très ingénieuses, etc. Mais à la fin de la journée, c'est quand même toujours la capacité à se dire est-ce qu'il y a un bien commun européen ? Est-ce qu'il y a des actifs communs qu'on serait prêt à financer ensemble ?
On l'a fait. On l'a fait dans une période tout à fait particulière, qui était Covid.
Oui. Et hors période particulière, bien sûr. Voilà. C'est tout l'enjeu de ce rapport.
On a fait de la mutualisation, enfin, un peu de mutualisation sur la crise gazière. Voilà. Donc, il faut des événements, quoi. Il faut des événements. D'accord. Et là, les événements... C'est sûr que Trump nous aurait... Enfin, si Trump est élu, ça va nous aider, entre guillemets, à réagir. Ouais. Parce que là, il va se passer quand même quelque chose. Ouais. Surtout qu'il gardera, de toute façon, quel que soit le Congrès, il gardera la politique de défense, la politique commerciale, la politique étrangère. Donc ça, c'est extrêmement important. Si c'est Kamala Harris, je crains fort que les élites politiques européennes...
se rendorment.
Ben, voilà, prononcent un lâche soulagement et donc continuent à roupiller bien gentiment, quoi. C'est... faudrait que je dise que une victoire de Trump n'est pas une si mauvaise nouvelle.
Non.
Dans le moyen terme, j'entends. À court terme, ça va nous coûter.
Et est toujours possible ? Ça remonte, on en a discuté avant avec les invités d'avant. L'effet post-convention démocrate pour Kamala Harris, ça n'a pas été si fulgurant que ça ?
Non, mais alors, ce qui est extraordinaire, bon, d'abord, c'est la décision de Biden, puis ensuite, parce qu'avant, voilà, et puis l'adoubement du Parti démocrate en 10 jours.
Ah oui.
Le 2 août, on avait... alors que c'était pas du tout évident avant.
Non.
Il y avait beaucoup d'opposition au sein du Parti démocrate. Bon, la convention de Chicago c'est assez bien passé. Et donc, elle a pris un assez bon colistier, je pense, avec Tim Walz. Pour l'instant, elle, elle est à la pêche aux voix, on le voit bien. Hein. Un coup à droite, quand elle, elle critique les woke, mais d'un autre côté, un coup à droite aussi, parce qu'elle dit sur la fracturation.
Oui.
Là,
oui.
J'ai peut-être été un peu trop loin en 2020, donc je reviens dessus. Oui. Voilà. Et puis un coup à gauche, je vais aider les familles, même si c'est, ce qu'elle propose est complètement obsolète, et puis en plus, pas efficace, mais ça ne fait rien. Je vais contrôler un peu les prix de certains médicaments alimentaires. Je vais vous favoriser les jeunes, l'accession à la propriété, les jeunes familles pour une aide pour le premier enfant. Enfin, elle vise des trucs, même état par état. D'ailleurs, c'est intéressant, Pennsylvanie, elle est remontée, elle a égalité hein, avec, avec Trump.
Ouais.
La Pennsylvanie, c'est 13 millions d'habitants, ça envoie quand même 19 grands électeurs.
Ouais,
donc
ouais.
Ça peut jouer. Géorgie aussi, elle est bien remontée. Elle est même...
Donc il y a match quand même.
Il y a match.
D'accord.
Là, alors qu'en juillet.
Ah, bah non, c'était.
C'était dans
plié,
un fauteuil.
Bien sûr,
c'était plié. Donc il y a match. Alors, ceci étant, il ne faut pas que les partisans de Kamala Harris, qui sont archi-majoritaires quand même en Europe, ne doivent pas crier victoire tout de suite parce qu'elle est largement en dessous du score de Biden dans les sondages en 2020, par exemple. Voilà.
D'accord.
Puis ensuite, il y a la Chambre des représentants aussi.
Oui, après.
Alors,
bien
ça,
sûr.
C'est 50-50 actuellement. Franchement, les sondages, c'est deux fois rien. Et même le Sénat, on pensait que le Sénat, c'était foutu pour les démocrates, puisqu'il y a quand même 11 sièges républicains et 23 sièges, si je me souviens, oui, 23 sièges démocrates.
D'accord.
Donc ça fait quand même un déséquilibre.
Ah ouais.
C'était plus compliqué, a priori, pour
les démocrates.
C'est pas complètement foutu non plus. Donc voilà, tout est ouvert, à la fois au niveau de la présidence et du Congrès.
Sur les marchés, et comment ça se traduit quand tu dois émettre des recommandations d'investissement pour tes clients ? C'est fait aussi partie du métier, Jean-Pierre. Donc on voit une courbe de taux américaine, alors je parle des grands équilibres, hein, qui se repentifie, qui même revient à zéro entre le 2 ans et le 10 ans. Est-ce que ça implique des changements profonds dans les stratégies d'investissement, sur les marchés actions, sur d'autres classes d'actifs ?
Il y a la courbe des taux, mais il y a plein d'autres choses,
ouais.
En fait, hein, fondamentalement. Nous, ce qu'on avait recommandé avant l'été, enfin nos principales recommandations, c'était de revenir sur les govies, les obligations souveraines.
La duration.
Okay. High grade, govies, or aussi, parce que bon, voilà. On était long sur l'yen et puis on a arrêté. Voilà. On garde pour l'instant cette stratégie et sur les actions, on est plutôt défensif. Oui. On a réduit l'arbitrage growth value. Voilà. Mais on aime, en Europe, ce qu'on aime bien, c'est les trucs traditionnels, les foncières. Alors, on croit à la baisse des taux, faut dire. Ben, voilà. Ça, si tu crois pas à la baisse des taux, c'est quand même difficile. La baisse des taux longs, c'est quand même un événement extrêmement important. Donc, les foncières, les utilities, les services télécoms, les trucs.
Proxy bonds, quoi. Les proxy bonds.
Voilà.
Ouais.
Plutôt ça, voilà.
Et sur l'immobilier, comment tu vois les choses? Alors que sur le marché boursier liquide côté où ça va vite, où on anticipe qu'il y a un call à faire peut-être sur ces segments-là, ok.
Sur les côtés, ça va très vite.
Dans la vie réelle, j'allais dire.
Dans les côtés, ça va très vite.
Comment on voit la séquence sur le marché immobilier, là?
Ce qui est intéressant sur l'immobilier d'entreprise, d'abord, on va commencer par l'immobilier d'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que la purge a été très importante. Ouais. En deux ans, un petit peu plus de deux ans, sur la grande couronne dans l'Île-de-France, hors Paris Intramuros, t'as quand même moins 30.
Ouais.
Sur la SCPI, en France, t'as moins 13. Wow, c'est quand même pas mal, hein. Et la prime de risque augmente. Alors après, sur l'immobilier de bureau, faut faire attention parce qu'on confond l'immobilier d'entreprise et l'immobilier de bureau. Sur l'immobilier de bureau, il y a problème, faut un petit peu se calmer encore parce qu'il y a encore un taux de vacances assez élevé. Bon, il y a tous les contraintes liées au télétravail, c'est difficile à bien établir. Il y a les contraintes aussi liées aux normes environnementales qui sont pénibles, etc. Donc, faut peut-être un petit peu attendre. Mais moi, mon grand pari il y a 4 ans, c'était l'hôtellerie et ça a très bien performé.
Ouais.
Donc, moi, je reste encore là-dessus. Sur la logistique, commerce, santé, attention, parce que c'était un truc qui a été suracheté.
C'est de la croissance, hein. Ça c'est l'immobilier de croissance.
Ah,
hein.
Faire attention.
Mais avec des valorisations de croissance, voilà, hein, c'est
exactement.
Ce que j'entends.
Hein. C'est rare pour un secteur comme ça, mais c'est vrai.
Voilà. Il y a ces segments-là. Ouais.
Alors sur les baux résidentiels, ça va mieux, forcément, parce que les taux longs ont baissé depuis octobre. Hein.
Ouais.
On était à 3,60 sur l'OAT 10 ans au mois d'octobre. Là, on est à 2,90, ce qui fait que les taux moyens immobiliers sont passés ils ont baissé de 60 bips à peu près entre la fin décembre et la fin juin. Ils réagissent toujours avec un petit temps de décalage. On est passé donc de 4,20 à 3,60 et quelques, un petit peu plus de 3,60. Donc ça, forcément, parce que en fait, la baisse de l'immobilier, c'est dû à 95% au taux.
Au taux, bien sûr.
La durée des taux, la durée des prêts, ça n'a pas beaucoup changé. Le revenu disponible est resté en territoire positif, donc ce n'était pas trop le sujet. Donc ça, c'était un choc de taux. Bah, le choc de taux, il est derrière nous. Donc on voit que la capacité d'achat moyenne remonte. Voilà, sachant qu'elle n'était pas trop déprimée non plus. La capacité d'achat moyenne remonte, les taux vont baisser encore, et le comportement des banques est un peu plus friendly. Sachant qu'il n'y avait pas trop d'excès, il n'y a pas eu d'excès d'offres avant, dans le cycle précédent, il n'y a pas trop de défauts dans les crédits immobiliers aux ménages en France, et que fondamentalement les taux sont à taux fixe, donc... Fondamentalement, je trouve que dans les prochains mois, on devrait voir un rebond des prix immobiliers résidentiels, sauf si la politique s'en mêle.
Bon, bon, nouvelle séquence peut-être pour l'immobilier et ses marchés immobiliers. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre Petit, président des Quais Verts de l'économie, invité de Smart Bourse ce soir.